France Inter.
Il est 18h sur France Inter. Bonsoir Éric Delvaux, c'est parti pour 2 heures d'information.
Eh bien bonsoir Mathieu Noël et à bientôt donc. Le 18-20 du vendredi débute par votre journal. Christelle Rebière, bonsoir.
Bonsoir à tous.
À la une ce soir, de moins en moins d'offres et toujours plus de demandes. Le marché de l'emploi se retourne.
Les intentions d'embauche chutent de 12,5% d'après l'enquête de France Travail. Et les investisseurs sont déboussolés. Le dollar chute face à l'euro. Faut-il s'en réjouir? Analyse à suivre.
Et vos autres titres, Christelle?
Ça devait être réglé en 24 heures, 2 mois que ça dure. La Russie doit se bouger, dit Donald Trump sur l'Ukraine. Son émissaire rencontre Vladimir Poutine en ce moment. Un enlèvement commandité depuis une cellule de prison, celui du cofondateur de Ledger, une société spécialisée dans les crypto-monnaies. Et puis des notices de médicaments en numérique seulement. Les associations de consommateurs refusent absolument d'abandonner le papier.
Et après votre journal, Christelle, une semaine en France sera consacrée aux sangliers qui pullulent à travers le pays, désormais au plus près de l'homme, jusque dans les propriétés privées, avec le danger et les dégâts que cela implique.
Avec leur groin et puis leur défense, ils retournent tout, hein. On dirait une excavatrice. Hein.
Ils sont tout détruits. Hein.
Et reportage donc à suivre de Guy Vanctil. Et puis à partir de 19h20, appelez-nous au téléphone sonne. En marge du Festival du Livre, nous allons tenter de comprendre ce soir pourquoi le livre est un peu délaissé par les lecteurs en ce moment. Le téléphone, vous le connaissez, 01 45 24 7000.
France Inter.
Les droits de douane et aussi le déficit public, les nuages s'amoncellent au-dessus de notre économie. Donc.
Et oui, l'incertitude n'est pas bonne pour les investissements et les perspectives d'emploi continuent de s'assombrir. Les intentions d'embauche des employeurs en 2025 sont en baisse de 12,5% sur un an, d'après l'enquête de France Travail. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir Christelle.
On en revient au niveau d'avant Covid.
Une baisse qui n'épargne aucun secteur d'activité. Alors qu'il y a encore 2 ans, le nombre d'intentions d'embauche dépassait les 3 millions, celui-ci tombe désormais à 2 millions 4, 600 000 de moins. Des entreprises qui hésitent à recruter dans un contexte beaucoup plus incertain, comme l'explique Cyril Nouveau, en charge des études et statistiques à France Travail.
Il y a un motif qui monte cette année, c'est les employeurs qui nous disent craindre des difficultés de recrutement liées à des problèmes budgétaires, de moyens financiers. Et ça peut les conduire, dans certains cas, à repousser, renoncer à leur projet de recrutement.
Particulièrement hésitants, les patrons de PME, notamment dans le secteur de la construction, moins 22% d'intention d'embauche. En revanche, et sans doute que ça n'étonnera personne, on continue à chercher dans des métiers comme la restauration et aussi la santé.
C'est le cas des aides-soignants, c'est le cas des infirmières et sages-femmes, pour lequel on a une hausse des besoins et des tensions qui restent fortes pour ces métiers.
France Travail, qui via ses 6000 conseillers pros, a multiplié les visites d'entreprises sur l'année écoulée. 160 000 visites en tout pour identifier au mieux les besoins sur le terrain. L'opérateur public évalue à 30 000 le nombre de recrutements réalisés grâce à ce travail de prospection.
Et les droits de douane n'ont pas de quoi rassurer les entreprises. Cette pause de 3 mois, avec seulement 10% de taxes supplémentaires pour les pays membres de l'Union européenne, représente 90 jours d'incertitude, souligne Emmanuel Macron. Une pause fragile. L'Europe, écrit le chef de l'État sur X, doit continuer à mobiliser tous les leviers disponibles pour se protéger et travailler sur des contre-mesures nécessaires. Les places européennes, elles, sont dans l'expectative. Paris perd 0,3% ce soir, Francfort 0,9%. Londres prend 0,6%. 6%. Le dollar, lui, s'affaiblit. Partons à Bruxelles retrouver le correspondant de France Inter, Fabien Cazot. Bonsoir.
Bonsoir Christelle, bonsoir à tous.
Alors l'euro reprend des couleurs, mais est-ce une bonne nouvelle?
Pas forcément quand il est question de commerce international, puisqu'on parle de droits de douane. Une monnaie forte, ça peut contribuer à rendre les marchandises qu'on exporte plus chères et donc moins compétitives que celles vendues par d'autres pays. Ça handicape donc les exportations. Ouais. En revanche, l'autre côté de la médaille, c'est qu'une monnaie forte, cela donne plus de pouvoir d'achat. On peut s'approvisionner plus facilement à l'étranger en composants ou en matériaux critiques dont l'Europe a besoin, notamment pour renforcer son autonomie face aux États-Unis ou à la Chine. Et un euro fort, ça peut aider.
En tout cas, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, se montre vigilante.
Oui, parce que tout ça, ce sont des équilibres très fragiles. Hein. Un emballement, dans un sens ou dans un autre, peut entraîner des réactions en chaîne, des mouvements de panique sur les marchés financiers. Or, toutes les entreprises et tous les investisseurs inquiets des tensions douanières de ces derniers jours le disent. Nous avons besoin de stabilité. Message reçu par la banquière en chef de la zone euro, Christine Lagarde.
Nous devons évidemment prendre en compte l'impact réel ou potentiel des mesures douanières. La Banque Centrale Européenne se tient prête à utiliser tous les instruments dont elle dispose pour garantir la stabilité des prix et celle du système financier, car l'une ne va pas sans l'autre.
La Banque Centrale Européenne bougera-t-elle ses taux directeurs? Encore un peu tôt pour le dire. Réponse jeudi prochain à l'issue de sa traditionnelle réunion de politique monétaire.
Fabien Cazot, direct de Bruxelles et aux États-Unis. La confiance des consommateurs recule fortement pour le quatrième mois d'affilée. Elle perd 34% sur un an. Les sondés redoutent une inflation massive, une dégradation de l'activité économique, une hausse du chômage. Or, Donald Trump a été élu notamment sur la promesse de faire baisser les prix.
La Russie doit se bouger, c'est l'avertissement que lance ce soir Donald Trump.
Trop de gens meurent, dit-il sur son réseau Truth Social, des milliers par semaine dans une guerre terrible et insensée. L'émissaire spécial du président américain Steve Witkoff rencontre en ce moment Vladimir Poutine pour évoquer le règlement du conflit. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Christelle.
France Inter à Moscou. Ce n'était pas prévu, Sylvain, ce qui laisse supposer qu'il est porteur d'un message de la part de Donald Trump.
Oui, c'est l'hypothèse la plus probable pour expliquer cette arrivée impromptue de Steve Witkoff qui n'était pas annoncée. On ne l'a appris qu'au dernier moment et selon toute probabilité, ce message concerne la guerre en Ukraine. Évidemment, cette trêve que Washington réclame formellement depuis 2 mois maintenant et qui ne vient pas, même les tentatives limitées aux installations énergétiques et à la mer Noire n'ont pas abouti. 2 mois maintenant que la Russie explique qu'une trêve globale est impossible à mettre en place, qu'il faut négocier sur l'ensemble du problème avant d'envisager un cessez-le-feu. Moscou gagne du temps, clairement, d'où ce message probablement de Donald Trump sur son réseau social, assez vindicatif, en tout cas plus que les précédents, parce qu'il semble désigner la Russie comme le camp qui bloque les négociations. Du côté du Kremlin, on se borne à confirmer que la discussion va bien porter sur l'Ukraine. Moscou a diffusé quelques images de Vladimir Poutine accueillant tout sourire Steve Witkoff à Saint-Pétersbourg, mais il ne faut pas s'attendre à des percées aujourd'hui, a déjà prévenu le porte-parole de la présidence, pas plus d'ailleurs qu'à une communication à l'issue de la réunion. Apparemment, cette troisième visite de Steve Witkoff en Russie s'annonce a priori plus tendue que les deux précédentes.
Et de son côté, le président ukrainien affirme que plusieurs centaines de ressortissants chinois combattent pour le compte de la Russie en Ukraine. Volodymyr Zelensky qui réclame ce soir 10 systèmes de défense antiaérienne Patriot supplémentaires et attend des progrès sur l'envoi d'un contingent militaire international. La cinquantaine de pays qui viennent en aide à l'Ukraine ont promis depuis Bruxelles de renforcer leur aide militaire, une nouvelle enveloppe de 407 millions d'euros. La guerre à Gaza s'invite une nouvelle fois à Eurovision. En Espagne, le groupe public de radio et télévision RTVE réclame un débat sur la présence d'Israël dans la compétition, compte tenu de ce qui se passe dans la bande de Gaza. La finale est prévue le 17 mai en Suisse.
En France, voilà un enlèvement commandité depuis une cellule de prison.
En janvier dernier, souvenez-vous, David Vallant, cofondateur de la société Ledger, spécialisée dans les crypto-monnaies, était enlevé avec sa compagne à son domicile. Il était retrouvé le lendemain, ligoté, un doigt coupé, sa compagne le sur le lendemain dans une voiture. Le commanditaire présumé de ces enlèvements a été mis en examen. Bonsoir Sarah Guibaudot.
Bonsoir.
Et il aurait piloté à distance tout ça et ce ne serait pas son premier enlèvement.
Le suspect de 26 ans était en détention provisoire à Angers. Il était déjà soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement en août 2023 d'un retraité dans la Sarthe. L'homme avait été kidnappé chez lui par de faux livreurs pour réclamer une rançon à son fils, un influenceur qui a fait fortune et qu'il avait affiché sur les réseaux sociaux, ce qu'il a alors amèrement regretté. Le père avait été libéré le lendemain. Les enquêteurs soupçonnent le même suspect d'avoir un an et demi plus tard mis en œuvre l'enlèvement de l'entrepreneur David Balland et de son épouse dans le Cher, ce qu'il conteste. Comme le Parisien le révélait ce matin, il serait celui qui donnait les consignes par téléphone aux différents exécutants qui avaient séquestré le couple. 7 personnes déjà interpellées, la plupart dans la vingtaine, certaines recrutées sur Telegram ou Signal qui ne se connaissaient pas auparavant. Et cela viendrait donc illustrer une nouvelle fois la faculté qu'ont certains détenus à poursuivre leurs activités criminelles derrière les barreaux, ce qui a poussé le gouvernement à faire voter dans la loi sur le narcotrafic la création de nouveaux quartiers de haute sécurité dans les prisons.
Sarah Guibaudot, inquiétude pour une jeune femme de 28 ans. Elle était partie faire son jogging hier matin à Vivonne dans la Vienne. Plus de traces, une centaine de gendarmes, 30 militaires sont activement à sa recherche. On y reviendra dans le journal de 19h. François Bayrou est loin d'en avoir fini avec l'affaire Betarame, du nom de cet établissement scolaire catholique près de Pau, qui fait l'objet de nombreuses plaintes pour violences physiques et sexuelles. Il doit comparaître, le Premier ministre, le 14 mai devant la commission d'enquête parlementaire, cette même commission qui, hier, a auditionné un gendarme et un juge chargé du dossier et qui laisse entendre qu'il savait. Bonsoir Timur Öztürk.
Bonsoir Christelle.
Le Premier ministre continue de se défendre, lui, vigoureusement.
Oui, François Bayrou, questionné par les journalistes en marge d'un déplacement en Seine-et-Marne ce midi, répète qu'il n'a pas influé sur les premières enquêtes concernant Betarame dans les années 90.
Moi, je vous dis que de toute ma vie, jamais je ne suis intervenu dans aucune affaire judiciaire. Et si quelqu'un peut venir me voir en disant « Vous êtes intervenu, j'y étais », à ce moment-là qu'il vienne.
Or, hier, justement, c'est la version qu'a maintenue un gendarme retraité sous serment devant la commission d'enquête. Il assure qu'en mai 98, un juge l'informe d'une intervention de M. Bayrou dans le dossier. Des propos rapportés minimisent le Premier ministre.
Ils disent « Quelqu'un m'a dit que quelqu'un lui a dit que ».
Mais il y a également le témoignage du juge Mirande. Il affirme que le procureur général lui a demandé en 98 de différer la présentation du principal suspect, le père Caricard.
Je ne sais pas s'ils mentent, c'est les juges et les gendarmes, vous savez, ça se trompe comme les autres. Il y a peut-être des gens de bonne foi, des gens qui ne savent plus ce qu'ils avaient à cette époque, mais tout sera prouvé.
Le Premier ministre assure à nouveau vouloir s'exprimer devant la commission d'enquête le 14 mai. D'ici là, Alain Esquer, porte-parole des victimes de Betarame, va publier un livre sur l'affaire le 24 avril. Selon nos informations, une des filles de François Bayrou y témoigne.
Timur Öztürk, pas question de supprimer les notices papier des médicaments. Plusieurs associations de consommateurs s'insurgent contre un projet européen qui prévoit de les remplacer par une version numérique seulement. UFC Que Choisir, la CLCV et Famille Rurale, Erwan Chassin, dénoncent surtout une mesure dangereuse.
Oui, et puis par exemple pour ces deux retraités, Hélène et Dany, supprimer la notice papier dans les boîtes de médicaments, c'est tout simplement une mauvaise idée.
On supprime tout, on fait des économies de papier au détriment des gens, quoi.
Je trouve qu'aller sur Internet pour un oui et pour un non, ça n'aide pas les personnes âgées.
Une notice sur Internet que l'on pourra trouver en plusieurs langues et actualiser plus facilement que pour une notice papier. Mais chez les pharmaciens, cette suppression possible passe mal. Éric Mion est secrétaire général de l'Union nationale des pharmacies de France.
Pour des personnes âgées, avoir de l'accès à de l'information fiable et efficace sur le médicament, je pense que leur professionnel de santé reste la première et la meilleure approche suivie d'une vraie notice papier. Donc je pense que c'est une aberration de partir sur ce genre de décision.
Sauf que l'on oublie qu'il n'y a pas que les personnes âgées pour qui l'accès Internet est encore compliqué. C'est le cas pour un tiers des Français, argumente Théo Brigand, chargé d'études à l'UFC Que Choisir.
Donc on voit qu'il y a quand même toute une large part de la population qui a des problèmes avec le numérique. Et si on va vers une numérisation des notices sur les médicaments, pour ces personnes, on va véritablement avoir des difficultés d'accès à l'information sur comment se soigner dans de bonnes conditions. Et puis comment aussi réagir s'il y a des effets indésirables qui commencent à apparaître.
Pour Théo Brigand, la notice de médicaments sur Internet, ce n'est pas une mauvaise idée, écologique et pratique, mais ça ne doit être qu'un outil complémentaire à la notice papier, conclut-il.
Erwan Chassin, moins de morts sur la route, une baisse de 10% en mars par rapport à la même période de l'an dernier. 10 000 billets de train à 19 € pour faire Paris-Clermont-Ferrand. Ils seront mis en vente au mois de juin. La SNCF est contrainte à faire un geste pour calmer l'exaspération des usagers. La ligne est connue pour ses incidents à répétition et pour ses rames vétustes. Or, l'arrivée des nouvelles rames a été reportée. Les abonnements seront réduits, eux aussi, de 10%. Enfin, le top musique avec les titres les plus écoutés de la semaine en France. Bonsoir Mathieu Culeron.
Bonsoir.
Deux artistes ce soir dans deux classements différents qui font l'actualité et qui conservent leur place dans le top 5 des albums.
Oui, on commence évidemment avec Vald qui était numéro 1 du top album la semaine dernière et qui redescend juste d'une case aujourd'hui. Le rappeur français qui réussit son comeback après 7 ans d'absence. Pandémonium, le dernier disque désabusé du rappeur d'Aulnay-sous-Bois, plus sombre, mais qui semble avoir trouvé son public, notamment grâce à ce titre où Vald se demande s'il devient de droite, car il rechigne à payer ses impôts. Gauche-droite, c'est le nom donc de ce morceau, écouté plus de 4 millions de fois sur Spotify.
Comme un putain de bobo gaucho, comme un putain Mais quand je prends l'avion, je suis du bon côté du rideau. Je suis super QLF.
Val qui pense à sa déclaration de revenus comme tout le monde. On peut la remplir depuis hier, hein, entre parenthèses. Val qui sera la semaine prochaine au printemps de Bourges. Et puis Mathieu, on change d'univers avec une musicienne française de jazz prête à conquérir le monde.
Oui. Gabi Hartmann était numéro 1 du classement jazz la semaine dernière et elle reste dans le top 5 ce vendredi. La musicienne qui chante en français, en portugais, en arabe et en anglais vient de sortir un album particulièrement réussi. La femme aux yeux de sel, une aisance vocale remarquée un peu partout, bien au-delà de nos frontières. Quelque part entre Norah Jones et Feist, la chanteuse canadienne. Ce titre en particulier produit avec le saxophoniste Laurent Barden est un petit bijou qui a contribué au succès de ce nouveau disque Love High, Gabi Hartmann.
Hartmann ou encore Wald, qu'on peut se mettre entre les oreilles sur la route des vacances par exemple. Les élèves de la zone C, région parisienne, Toulouse, Montpellier ou encore la Corse, s'ajoutent à ceux de la zone B.
Ouais, moi j'ai un petit fait pour Gabi Hartmann.
Moi aussi.
Hein. J'avais entendu
pourquoi.
Quand elle avait fait les premières parties de Jamie Cullum, Mélodie Gardot et Mathieu Chédid, je crois. Et gros disque qui sort en ce moment. C'était le journal de Christelle Rebière. Le temps.
La météo. Avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
Eh bien, ce changement de temps arrive demain.
Et oui, alors on va garder quand même du soleil de la Normandie et du Nord-Pas-de-Calais vers le nord-est le matin. Un petit peu plus de nuages l'après-midi sur ces régions, surtout sur la Bourgogne-Franche-Comté avec quelques ondées. Et ailleurs, ce sera nuageux dès le matin avec quelques averses. L'après-midi, des pluies plus continues gagneront les régions allant de la Bretagne et de la Gironde vers le centre-val de Loire. Ces pluies progresseront en soirée vers la région parisienne et vers les frontières du nord. Sur le sud-ouest, des averses, parfois orageuses l'après-midi. D'ailleurs, des orages plus musclés en fin de journée. Et puis on aura un vent de sud demain sur bon nombre de régions, en particulier de l'Occitanie à la vallée du Rhône.
Et il fera encore très doux.
Très doux pour la saison, oui, malgré une baisse à l'ouest. Alors souvent 17 à 23 degrés attendus, jusqu'à 23 à 25 degrés des Hauts-de-France au Grand Est. Et puis dimanche, des averses sur le sud et l'est. Ce sera quand même plus lumineux sur le nord-ouest l'après-midi, avec seulement quelques averses.
Les prévisions d'Élodie Calac.
Ce week-end, France Inter est au Festival du Livre de Paris.
Dès ce samedi, les émissions s'installent en public.
De 12h à 14h, un grand face-à-face XXL. Pourquoi lire et pourquoi le livre est-ce si bon pour la politique?
À 14h, etc. avec David Fuenquinos, Christophe Onodibio et Dominique Fortier.
À 18h, un monde nouveau avec une saga phénomène, La Femme de Ménage.
Et ce dimanche à 11h, on va déguster autour des saveurs marocaines.
Le Festival du Livre de Paris,
c'est ce week-end sur France Inter.
Un grand merci d'avoir choisi France Inter, il est 18h17.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France consacrée ce soir aux sangliers qui pullulent à travers le pays, y compris en bord de mer. Ce sanglier vient désormais au plus près de l'homme, semer la zizanie parfois, non seulement dans les champs, mais aussi dans les jardins, les propriétés qu'il abîme, ou même qu'il saccage parfois. Alors voici ce fier animal, jadis sauvage, désormais déclassé, jusqu'à devenir nuisible, car jugé dangereux pour l'homme. Eh bien nous verrons comment l'homme est justement responsable de sa prolifération, et comment les battues de sangliers par les chasseurs restent parfois insuffisantes pour enrayer le phénomène. Bonsoir Yael.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Comme chaque vendredi, on abordera avec vous le volet politique de l'affaire des sangliers ce soir, car il y a bien une volonté politique de lutter contre leur prolifération.
Et on n'en a jamais tué autant, 800 000 bêtes par an, objectif plus d'un million par an d'ici à 2030. Régulation complexe, casse-tête pour les élus, une cohabitation est-elle possible avec le sanglier?
À tout à l'heure Yael, le sanglier, cet animal qui n'a jamais cessé de s'adapter, et effectivement, comment vivre ensemble? Eh bien, c'est le thème d'une semaine en France.
Éric Delvaux, le 18-20.
Avec notre premier témoin en duplex de Hanor, c'est dans le Nord, dans le haras de la Neuve Forge. Bonsoir Jean-François Jougnot.
Bonsoir.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous êtes le directeur de ce haras, un centre équestre régulièrement assailli par des hordes de sangliers. Quand d'ailleurs sont-ils apparus la première fois?
Écoutez, ils sont apparus, on va dire, une lait avec une petite dizaine de marcassins. La première fois, il y a une dizaine d'années à peu près.
Et quels dégâts font-ils ?
Bah, le dégât est il retourne les prairies, hein, en faisant des trous tous les 20 mètres ou tous les 10 mètres carrés, quoi. Ils font des gros trous pour s'alimenter.
Et de jour comme de nuit ?
Alors, plus de nuit, mais il n'est pas rare aujourd'hui, maintenant, de les voir en plein jour.
Et ils sont de plus en plus nombreux depuis 10 ans ?
Oui, il y a 10 ans, on voyait une lait qui se promenait avec ses marcassins. Maintenant, on en compte parfois jusqu'à 80, quoi.
Alors, comment expliquez-vous leur présence massive ?
Bah, écoutez, la présence, pour moi, est due à une gestion, hein, on va dire. De plus en plus de zones sont, on va dire, préparées pour, on va dire, l'élevage de sangliers. Pour moi, on les parque, on les nourrit pour qu'ils aient de facilité à se reproduire.
Est-ce que les pertes sont prises en charge, les dégâts ?
Alors les dégâts, la fédération nous en indemnise en partie, oui bien sûr, mais il y a d'autres dégâts, on va dire, qui sont pas pris en considération, comme les dégâts des clôtures, on va dire les remises en état des chemins, des bordures de rivières qui sont aujourd'hui touchées, moi sur mon secteur d'activité.
Et d'ailleurs, que faites-vous pour faire fuir les sangliers et surtout pour ne plus qu'ils reviennent ?
Alors aujourd'hui, nous, on a clôturé complètement notre prairie, on va dire, qui nous servent à nourrir les chevaux. Hein. Il y a une quinzaine d'hectares qu'on était obligé de clôturer avec 3 fils d'acier avec du courant dessus. Donc ça, c'est, on va dire, c'est pour se protéger au mieux, mais les cochons, on va dire, n'hésitent pas à passer en force des parcelles boisées voisines. Et au niveau de la fédération, il y a eu des lieutenants de louveterie qui viennent pour faire du tir de nuit.
Parce qu'il faut expliquer que les chasseurs sont appelés pour tenter de réguler le phénomène, et chez vous, ça ne marche pas.
Bah écoutez, chez nous, non, ça ne marche pas vraiment parce que, on va dire, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas assez de battues qui sont faites au niveau des fédérations de chasse, hein, des chasses locales. Et il n'y a pas de battues administratives qui ne sont organisées, on va dire, pour le réguler.
Et les sangliers, donc, ne sont plus naturellement effrayés par l'homme ?
Non, parce que quand on marche dans les prairies, je vais bien dire avec un peu d'humour, avec un seau de champignons, ils nous suivent.
Avec quel danger aussi pour les promeneurs en poney que vous accompagnez en balade ou vous faites accompagner en balade ?
Bah écoutez, nous, le danger, on va dire, il est plus de peur pour les enfants. On va dire pour nous, on va dire adultes, on ne craint pas vraiment à notre vie, mais aujourd'hui, c'est quand même une grosse crainte pour les enfants qui ne connaissent pas, pour les gens qui ne les côtoient pas, et surtout au niveau sécurité routière.
Il faut dire, et ce sera notre dernière question, votre centre équestre, il n'est pas le seul touché dans le coin par les sangliers. Dans le village voisin aussi ?
Oui, dans le village, les prairies des voisins, les pelouses des particuliers, ils sont aujourd'hui complètement dévastés. Il y a plusieurs hectares tout autour de la forêt qui ont pris beaucoup de dégâts.
Eh bien, merci beaucoup de ce témoignage, Jean-François Jougnot, en duplex, donc de Hanor, dans le Nord, dans ce haras de la Neuve Forge, qui a donc perdu de sa tranquillité à cause des sangliers. Merci beaucoup et bon début de soirée. Toujours à propos des dégâts que provoquent les sangliers en zone urbaine, cette fois, un autre exemple. Nous partons à l'Armor-Plage, c'est dans le Morbihan, près de Lorient. Il y a encore 3 ans, il n'y avait aucun sanglier. Eh bien, désormais, chaque nuit, ils viennent abîmer les jardins et provoquer aussi quelques accidents de circulation. Les chasseurs appelés à la rescousse. C'est un reportage de Guy Vanctil.
Ils sont rentrés dans la ville.
Moi, j'ai une amie qui habite un petit peu plus loin, là. On fait du golf, donc je vais souvent chez elle la chercher. Mais c'est de pire en pire devant chez elle. Maintenant, il n'y a plus de pelouse, hein, devant chez elle.
Ah oui, il y a des dégâts, il y en a plein.
Toutes les nuits, en fait, on sait qu'ils passent, quoi. On se lève le matin, on voit des mottes de terre.
Il y a 3 ans, on ne les voyait pas dans les jardins. Avant, on parlait, bon, le sanglier des Ardennes, c'est là-haut.
Non, c'est le sanglier du Morbihan.
Et maintenant, bah, c'est le sanglier.
De l'Armor-Plage.
Là, on est face à la base sous-marine de Lorient.
À 100 mètres des jolies plages,
Donc là, un endroit paisible, résidentiel.
Ah oui, oui,
là,
oui.
Là, on
oui,
passe
oui,
à travers des jolis pavillons oui, avec leurs oui, petits jardins.
Oui, oui. Donc là, on va venir se garer parmi les maisons et on va les voir. Alors moi, je suis ce collet, Yannick, président de la société de chasse de l'Hormor-Plage. Donc, nous, dimanche, on va venir ici. On va démarrer l'abattue à cet endroit.
Ici, ouais.
Ouais, à cet endroit. Donc, on est carrément dans les maisons.
Oui.
C'est. On n'a pas caractère à chasser ici. On vient parce que il faut réguler cet animal qui cause des dangers. C'est un accident en moyenne tous les 15 jours. C'est un
accident. À cause de la surpopulation de sangliers.
Oui, oui. Moi, cette année, sur cette parcelle, mais on en a ramassé plus de 25. Hors battu.
Ça, c'est juste les accidents de la route.
Oui, c'est juste les accidents de la route. Il y a 6 ans, à l'Hormor-Plage, il n'y avait aucun sanglier. Cette année, avec les accidents, les battues que nous faisons, on aura dépassé les 70 animaux.
En quelques années?
Ouais. Ils ont le couvert, ils ont la nourriture comme ils veulent. Ils traversent la route, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents, pour aller sur les champs cultivés qui se trouvent de l'autre côté, vont manger du blé, du maïs, reviennent ici. Et dans les landiers qui sont au bord des routes, ils adorent ça, ils sont tranquilles, ils sont...
L'invasion des sangliers.
Un sanglier a traversé un lotissement et est parti se réfugier dans le centre Leclerc Bricolage. Heureusement pour nous, il est resté coincé dans le sas.
Bonjour. Je fais un reportage sur les sangliers.
Ah, bah moi, alors mes parents habitent là. L'autre jour, maman qui voulait ramener la poubelle qui est sur la rue parce qu'il faut l'emmener s'est fait charger par un sanglier.
Ah bon?
Donc elle est remontée dans sa voiture vite fait, bien fait. Hier soir, quand on a voulu emmener la poubelle, on avait une batte de baseball au cas où on se fasse charger. Parce qu'en fait, régulièrement, tous les soirs, il y a des sangliers qui traversent. En fait, c'est presque flippant de sortir de chez soi la nuit ici, quoi. Et il y a une battue dimanche.
Donc dimanche, vous devez être enfermé chez vous, barricadé?
On bouge pas, on bouge pas. On n'a pas le droit de sortir, c'est trop dangereux. Malheureusement, mais c'est comme ça.
Alors ça y est, on est revu sur un petit chemin.
Devant nous, juste devant nous, là, à 3 mètres, t'as déjà les dégâts. Ce sont les sangliers.
Ah, c'est ça, les sangliers.
Là, c'est frais. Ça a été remué cette nuit.
Cette nuit, là.
Oui, c'est frais.
Ils sont tout labourés.
Voilà, on a bien une centaine de mètres où tout est labouré.
Hop, on repasse dans les petits sous-bois avec des chênes et des fougères et des pins.
Donc, voilà, là, on est sur un poste. Je vais mettre 3 chasseurs ici. Il y en aura un autre plus loin là-bas, sur ma droite, et un autre plus bas.
Là on est vraiment à 20 mètres de la maison.
Ouais, 20 mètres et encore. Parce que je pourrais même lire l'étiquette de la chemise sur le fil à linge. Mais, comprenons-nous bien, c'est à la demande des gens qui habitent là qu'on vient faire cette battue. Donc là, la personne va être ici, il ne tire que devant lui à 10 mètres. Et sur sa droite, avec un angle de 30 degrés. On ne peut pas se permettre d'avoir un animal qui part sur la route, sur le centre-ville, jour de marché.
C'est-à-dire que c'est presque... On dit que les sangliers sont intelligents, mais c'est presque comme s'ils faisaient exprès d'aller dans les endroits où ils savent qu'ils ne risquent pas d'être chassés.
Oui, lui, c'est un opportuniste. Il se dit, bon, là, je suis peinard, hein, pourquoi aller m'embêter à me faire tirer dessus toute la saison, alors qu'ici... Et là, on va attaquer celle-ci, ça sera la 17e battue communale.
Il y en aura d'autres encore derrière.
Oui, oui.
Ah bonjour monsieur.
Jean-Luc Leroux.
Bonjour.
Bonjour.
Enchanté. Monsieur Leroux Jean-Luc, voisin de Serge et puis souvent ensemble pour gérer ses petits problèmes.
Serge, donc voilà, j'habite à l'Armor depuis, on a acheté en 2003.
Et là, on est dans votre jardin.
Ah ben, c'est un champ de bataille. Hein.
Là, tout ce qu'on voit, là, parce qu'on voit, c'est une belle pelouse, sauf qu'il y a toute une partie qui est en terre, abattue. Ouais, ouais.
Il y a des trous de 30 cm hein, quand même. Hein.
Avec leur groin et puis leur défense, ils retournent tout. Hein. On dirait une excavatrice. Hein, c'est...
Moi, je me souviens le matin, quand j'ai ouvert les volets, j'ai vu ça. Ça surprend quand même. Hein. Ils ont tout détruit. Hein.
Moi, il y a 2 ans que c'est derrière chez nous, là. Des petits bois qui est derrière, là. On ne voyait pas de sanglier. Hein.
Oui, oui.
Non, non.
Et maintenant, vous en voyez souvent?
Oh, c'est pratiquement tous les soirs.
Hein. C'est open bar pour les sangliers.
Ah oui, oui, c'est bien, ouais. Ah, ouais. Ils ont bien repéré l'endroit. C'est un endroit qui leur plaît, forcément.
Et... Comme à vous.
Bah oui. Mais
pour les mêmes raisons, presque.
Bah, ouais, bien sûr. Ouais,
et du coup, ça fait des problèmes de coexistence aujourd'hui, sur le même territoire. Quoi.
Mais une fois qu'on est là, c'est difficile de dire on va laisser la place aux sangliers. Hein, parce que...
Nous, on ne veut pas s'en débarrasser, mais on ne veut pas qu'ils viennent chez nous. Vivre en bonne intelligence avec des humains, c'est déjà difficile. Mais avec des animaux comme ça, je ne vois pas.
Voilà, comment vivre ensemble. Voilà donc pour ce reportage de Guy Vanctil à l'Armor Plage dans le Morbihan. Et je précise que la battue qui était prévue dimanche vient finalement d'être annulée par arrêté préfectoral. Les chasseurs appelés à la rescousse pour tenter de réguler. Eh bien, on en parle à présent avec vous, Mathieu Salvaudon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes de la Fédération nationale des chasseurs, vous êtes le directeur service dégâts de gibier. Expliquez-nous d'abord pourquoi, en cas de dégâts causés par les sangliers, c'est à la Fédération de chasseurs d'intervenir et même d'indemniser parfois.
Oui, ça vient d'une loi de finances en 1968 qui a déterminé l'arrêt de la défense par les agriculteurs de leurs terres, ce qu'on appelait à l'époque le droit d'affût. Et donc on a confié cette mission d'indemniser les agriculteurs qui auraient des dégâts à cause de cet arrêt aux chasseurs. Donc au départ c'était aux établissements publics liés à la chasse, et puis depuis 2000 ça a été confié aux fédérations des chasseurs.
Mais avant les années 60 donc, les agriculteurs, vous venez de le dire, ils avaient ce droit d'affût pour tuer ou faire fuir les sangliers. Est-ce que ça vous semblait efficace ?
En fait, on était sur d'autres périodes. Le grand gibier était absent également. Il y avait une attente sociétale à ces années-là, dans les années 70, d'évoluer, de faire remonter les populations d'après-guerre de grand gibier. Et donc, il y a eu un changement de gestion, de système de gestion.
Et désormais, donc, avec les dégâts qui augmentent, vous payez. Ça se chiffre en dizaines de millions d'euros. Est-ce que la facture est de plus en plus salée aussi ?
La facture est de plus en plus salée, elle a atteint au total, avec tous les frais de gestion, la prévention de ces dommages, comme un des intervenants l'indiquait sur les clôtures électriques, on est à plus de 100 millions d'euros actuellement en France.
100 millions d'euros, ça a de quoi mettre en difficulté peut-être la fédération de chasse, non ?
Oui, parce qu'en parallèle, vous avez sûrement entendu, on a une érosion du nombre de chasseurs. Donc le financement unique par les chasseurs est de plus en plus compliqué. Les effectifs en 20 ans ont diminué de 30% en termes de chasseurs. Et à l'inverse, on a multiplié par deux, le nombre de sangliers a été multiplié par deux.
Je fais une parenthèse, d'ailleurs, comment expliquer que le nombre de chasseurs ait été divisé par deux depuis les années 80 ? Vous êtes à un peu plus d'un million aujourd'hui, hein. Comment expliquer ça ?
On est un petit peu moins d'un million maintenant, hein. À 930 000 cette année.
La chasse serait une pratique qui est passée de mode ?
Oui, il y a beaucoup de plus d'occupations, je pense, dans les campagnes qu'il y en avait à une certaine époque. On a aussi des populations de plus en plus urbaines, et donc en fait une tradition de chasse qui est moins facile à pratiquer pour certains, mais on voit un renouveau et on voit de nouveaux publics revenir à la chasse. Et on va travailler à ça dans les années à venir.
On va revenir aux sangliers. Est-ce que les battues de chasseurs sont efficaces pour prélever suffisamment de sangliers ?
Ben, vous l'avez dit dans l'introduction, on est quand même à 863 000 animaux tués la saison dernière. Donc c'est un chiffre quand même impressionnant. Donc les chasseurs, ils sont efficaces sur le terrain. Après, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui ? Peut-être pas, sûrement pas. C'est pour ça qu'on met en place petit à petit de nouveaux outils laissés à la disposition des chasseurs. On fait ça conjointement avec l'État. Bah, par exemple, on va étendre... la période de chasse a été étendue l'an dernier, donc... En autorisant la chasse en mois d'avril-mai, dans les périodes de semis, notamment de maïs, c'est une culture qui est très attaquée par les sangliers. Donc ça, c'est le premier point. Après, on a donné la possibilité de piéger. Donc il y a de plus en plus de piégeages, notamment dans les zones périurbaines qui étaient évoquées tout à l'heure, qui sont délicates à chasser. Après, il y a aussi des possibilités de tirer autour des récoltes, de manière à avoir une efficacité et surtout à rendre... insécuritaire les zones de culture et faire sortir les sangliers des zones de culture. Il y a l'efficacité en termes de tir, mais il y a aussi, ça a été dit, de rendre la zone non sécuritaire pour l'espèce qui s'adapte énormément, qui a un pouvoir d'adaptation énorme, qui peut s'entasser sur des petites surfaces et aller faire des dommages autour après.
Parce qu'il faut peut-être rappeler aussi que c'est délicat pour vous de tirer au fusil quand vous êtes quasiment en ville. D'ailleurs, est-ce que vous avez le droit ?
Oui, alors il y a souvent une fausse indication d'interdiction de tir dans les 150 mètres. En fait, il y a quelques communes où il y a des ACCA où il y a cette obligation cette interdiction, mais sinon il n'y a pas de distance. C'est le tir en direction 2 qui est interdit. Et tout à l'heure, l'intervenant chasseur l'expliquait très bien. Il y a des angles de sécurité, il y a des orientations de tir qu'il faut respecter pour éviter d'être dangereux, mais il n'y a pas de distance. Par contre, ça fait quand même un petit peu de bruit, et donc il y a souvent, et là ça avait l'air d'être le cas, il faut une bonne communication auprès des habitants, en préambule, hein, pour expliquer ces actions, pourquoi ça va être mené de cette manière-là, et pour rassurer les gens qui ne connaissent pas forcément cette pratique.
Et la technique qui consiste à déposer des grains pour attirer les sangliers, il paraît que c'est interdit, mais est-ce que cette technique perdure malgré tout ?
Alors, ce qui est interdit, c'est le nourrissage, qui a été sous-entendu d'ailleurs par un des intervenants. Le nourrissage en grande quantité est interdit. Par contre, ce qui est autorisé, c'est de l'agrainage dissuasif. Alors, c'est pas pour
attirer... Faut nous expliquer ça. Agrainage dissuasif, expliquez-nous.
Dissuasif des dégâts donc dans les zones agricoles. Donc, c'est tout l'inverse, en fait. C'est d'occuper les animaux en zone de bois, en laissant, en effet, quelques grains disséminés dans des petites quantités. Donc, ça a été cadré au niveau réglementaire, au niveau national. Et chaque département, après, adapte cette règle pour être la plus précise possible. Donc, l'idée, c'est de donner de l'accès à quelques grains de nourriture pour que occuper les animaux à chercher leur nourriture dans les bois, loin des cultures agricoles.
Quelle est votre explication à vous ? Pourquoi y a-t-il de plus en plus de sangliers en France ?
Il y a plusieurs phénomènes, hein. C'est vraiment multifactoriel, et c'est pas qu'en France, hein, aussi, ouais. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais pour la France et dans beaucoup de pays européens, il y a le changement climatique qui, aujourd'hui, intervient fortement sur la dynamique de population. On a de moins en moins d'hiver, donc on a de moins en moins de mortalité sur les jeunes animaux, sur les marcassins. Les animaux aussi grossissent plus vite parce qu'ils sont moins soumis à la rigueur de l'hiver, et donc la reproduction est meilleure. On a aussi beaucoup plus de fruits forestiers. À l'inverse, les chênes et les hêtres répondent au stress, notamment hydrique, et produisent des faines et des glands pour se reproduire. Eux, c'est leur moyen de se reproduire et de se perpétuer. Et donc, toutes ces glands et ces faines amènent une nourriture abondante sur le sanglier et emballe la dynamique de population et donc la reproduction.
Eh bien, merci. Merci beaucoup de toutes ces explications, Mathieu Salvaudon de la Fédération nationale des chasseurs. Je rappelle, vous êtes aussi le directeur service dégâts de Gibier. Merci beaucoup et bonne soirée. On va continuer de parler des sangliers et de leur prolifération qui semble hors de contrôle. On verra dans un instant si le sort que l'homme réserve à cet animal n'est pas le même finalement que celui qu'il réserve à la nature. En général, on va en parler avec un écologue spécialiste des sangliers. Vous écoutez Une semaine en France avec Juliette Gou à la réalisation et Lionel Thompson à la rédaction en chef.
He caught me whispering to myself, finding somewhere that I can be for something that I see in you. Someone that you would see in me. If nothing is real, then nothing is true. If nothing is real, today you would turn away from you.
If Nothing Is Real, la programmation de Djoubaka, c'était Pierce Faccini avec Balaké Sissoko. La suite d'Une semaine en France, à la technique ce soir, Loïc Frapsos, Julien Dumont et Juliette Petit.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France, la suite consacrée donc ce soir aux sangliers qui pullulent en France. On a entendu le discours des agriculteurs gérants de centripiques, le discours des chasseurs. Eh bien, je vous propose à présent de vous mettre dans la tête du sanglier. C'est le travail que vous avez fait, Raphaël Matevé. Bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur.
Vous êtes écologue, c'est-à-dire que vous étudiez l'impact des activités humaines sur notre environnement, vous êtes chercheur au CNRS et co-auteur du livre « Sanglier, géographie d'un animal politique » paru fin 2023 chez Actes Sud. En laissant donc moins de place sauvage, comment l'homme a fini par changer la nature même du sanglier ?
Eh bien, tout simplement parce que le sanglier était déjà lui-même très prolifique d'un point de vue biologique, puisqu'il fait entre 5 et 6 petits par an, et que c'est une espèce extrêmement plastique en termes de comportement. Et les humains, évidemment, en aménageant l'espace pour déployer leurs activités économiques notamment, eh bien, on libérait, si je puis dire, des espaces qui pouvaient être extrêmement favorables pour l'espèce.
Il faut dire que ce sanglier n'est plus du tout l'animal sauvage que les chasseurs grecs recherchaient, pour sa bravoure notamment. Aujourd'hui, il est réduit à un seul rôle de perturbateur. Ce déclassement du sanglier, c'est un peu aussi celui de la nature en général par l'homme ?
Alors, disons qu'il y a une grande variété de situations. Donc, ce déclassement, on peut le rencontrer du fait, effectivement, de la perte de rareté de l'animal et de sa banalisation, si je puis dire, dans nos bords de route, dans nos jardins, voire même son arrivée en ville. Mais il faut quand même reconnaître que le sanglier reste un gibier très noble, reste la bête noire recherchée par pas mal de naturalistes et de chasseurs dans beaucoup de massifs forestiers.
Pourquoi le sanglier pullule désormais à peu près partout en France, quel que soit le milieu, et on l'a vu dans cette émission, y compris en bord de mer.
Alors, les densités de sangliers peuvent être effectivement extrêmement fortes. La capacité d'accueil n'est toujours pas atteinte. A priori, il peut y avoir encore beaucoup plus de sangliers. Les principales causes, elles sont assez bien identifiées. On a la disparition de leurs prédateurs, hein, comme le loup qui pouvait, à une époque, a pu pouvoir réguler en prélevant des jeunes sangliers certaines populations. On a la question de la forêt, hein. On n'a jamais eu autant de forêts aujourd'hui. On retrouve les niveaux qu'on n'avait pas connus depuis le XIe siècle, hein, c'est dire. Et cette forêt, elle est extrêmement riche en nourriture. Beaucoup de fructifications forestières sont très favorables à l'alimentation du sanglier. Le troisième élément, c'est la simplification des paysages agricoles avec l'intensification et la modernisation agricole des...
Et la disparition des haies années, aussi.
Et voilà, c'est ça, la disparition des haies qui ont fait disparaître aussi tout le petit gibier, les lièvres, qui étaient le gibier très favorable à la chasse des agriculteurs eux-mêmes. Et puis, on a, face à cette simplification des paysages, on a la volonté des institutions cynégétiques nationales de l'époque, hein, des années 60-70, de retrouver du grand gibier, donc faire revenir dans nos forêts le chevreuil, les grands cerfs, le sanglier. Et donc, on va déployer toute une série, tout un arsenal zootechnique, si je puis dire, pour accompagner le retour de ces animaux-là. Et ça a été un très grand succès. Et voire même beaucoup de chasseurs aujourd'hui reconnaissent dans nos entretiens s'être fait un peu dépasser. Et on a mis en place pendant 10, 20 ans, 30 ans des pratiques très conservatrices qui permettaient d'avoir un bon taux, un niveau de prélèvement de sangliers chaque année assez élevé. Et puis, du fait de la démographie très élevée du sanglier, on peut avoir un emballement puisque plus on chasse le sanglier, plus ça peut avoir un impact sur l'âge de reproduction des laits.
Oui, parce qu'il faut expliquer, pardon de vous couper, aujourd'hui les chasseurs, ils ont le droit d'abattre les sangliers sans plus aucune sélection et même plus longtemps dans l'année. Et avec quelles conséquences ?
Disons qu'auparavant, on avait des pratiques conservatrices qui permettaient de préserver des abattages les animaux reproducteurs. Et désormais, on demande aux chasseurs de tuer toutes les catégories d'âge, de sexe, de poids, pour justement réduire les dégâts. La conséquence immédiate, ça peut être des déstructurations sociales des compagnies de sangliers, puisqu'on oublie souvent de dire que les sangliers sont assez grégaires, notamment des structures sociales particulières, qui font que les animaux peuvent apprendre, chemin faisant aussi, avec le pilotage de certains subadultes et adultes, et le fait de détruire les animaux sans discernement peut contribuer à exploser les compagnies de sangliers et potentiellement accentuer les dégâts là où on veut les réduire. Donc ça, ce sont des hypothèses de travail basées sur des témoignages de chasseurs eux-mêmes localement. L'autre conséquence, c'est l'absence de vieillissement des animaux. Le sanglier peut vivre juste une douzaine d'années et en moyenne, bon, les sangliers disparaissent avant même l'âge de 3 ans du fait de l'effort de chasse qui est colossal. L'autre conséquence qui est assez inattendue, parce qu'elle est contre-intuitive, c'est que, grosso modo, les travaux scientifiques montrent que plus vous chassez le sanglier, plus il se reproduit jeune et plus il a tendance à faire de petits. Tout est en place pour un emballement démographique. On peut dire que, pour le moment, ce sont les chasseurs qui sont les principaux régulateurs du sanglier en France.
Raphaël Matvey, vous restez avec nous. Hein, le temps d'aborder le volet politique de ce dossier sur les sangliers. La politique, ça, c'est votre affaire. Yaël Gauze. Et donc, on va voir avec vous, Yaël, que la gestion de la surpopulation des sangliers vire au casse-tête pour les élus locaux.
Avec parfois des dégâts jusque sur les terrains de foot, au grand mot les grands remèdes, en février 2023, la mairie de Saint-Lambert-la-Poterie, c'est près d'Angers, prend un arrêté, disons, très original.
Les sangliers n'ont pas le droit de pénétrer sur le stade de football de la commune s'ils ne sont pas équipés de chaussures réglementaires à crampons. Les sangliers doivent obligatoirement rendre le stade communal dans le même état que lorsqu'ils l'ont pris. Il est donc fortement recommandé de reboucher tous les trous laissés lors du jeu.
L'adjoint au maire de Saint-Lambert-la-Poterie, Henri Voisine, au micro d'Ouest France. Un arrêté municipal, évidemment, au second degré. Le premier degré, moins drôle, c'est le coût pour la commune. 50 000 euros pour refaire le terrain et encore 50 000 euros pour poser une clôture rigide. Le sanglier, pourtant si attachant, surtout quand il s'agit de Toto, ce petit marcassin,
Toto le marcassin,
blessé en 2023 lors d'une battue dans l'Aisne et recueilli par une famille qui l'élève au biberon, menacé d'euthanasie par la justice, car on n'a pas le droit d'apprivoiser un animal sauvage potentiellement porteur de maladie, il a finalement, Toto, trouvé refuge l'été dernier dans un parc animalier des Ardennes grâce au maire de Charleville-Mézières, félicité par le gouvernement et par la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher.
Donc il propose de recueillir Toto en sécurité au sein d'un espace protégé, et bravo pour la mobilisation de ce maire et de l'ensemble des élus.
Alors Yael, on a vu cet arrêté municipal qui interdit de stade tous les sangliers. On vient de voir le feuilleton de Toto et on aurait envie de prendre ça un peu à la légère.
Mais sauf que c'est un sujet suffisamment lourd pour avoir fait l'objet dès 2009 d'une circulaire de Jean-Louis Borloo. Le plan national de maîtrise du sanglier, c'est au préfet d'agir dans chaque département en lien notamment avec les fédérations de chasseurs, car si une récolte est abîmée, c'est eux qui indemnisent. Le 25 mars dernier à l'Assemblée, la députée Annie Blin interpelle la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard.
En 2024, les dégâts causés par les sangliers en Seine-Maritime ont représenté à peu près 1,5 million d'euros d'indemnisation.
25 millions ont été attribués aux fédérations départementales des chasseurs en 2023. Cette année, ce sont 10 millions d'euros qui leur seront alloués.
Madame Vidal.
Peut-être faudrait-il travailler sur la question du tir sur les zones d'appâtage qui restent encore à travailler.
Oui, il y a beaucoup de débats qui continuent avec les chasseurs. L'appâtage, technique qui consiste avec de la nourriture à regrouper les animaux dans une même zone, mais dans quelles conditions tirer, à quelle distance le mirador, quand dans l'année, tout ça fait l'objet de règlements négociés et réactualisés. Ce qui est sûr, c'est que tout devient encore plus complexe quand les sangliers arrivent en ville. Max Aliès est maire d'une petite commune de l'Hérault et président de la Fédération départementale de chasse. Il les voit, les sangliers, sur les lignes de tram à Montpellier.
On arrive avec beaucoup de précautions
à organiser quelques battues sur des secteurs de la ville, des autorisations de la mairie, des mobilisations des forces de police pour sécuriser la zone, une étude très précise sur les zones où on peut les tirer. Mais bon, c'est assez compliqué.
Mais nécessaire, même Emmanuel Macron assigne aux chasseurs cette mission de régulation.
Je pense que c'est une activité à laquelle il faut reconnaître sa place pour avoir ce qu'on appelle, pardon du jargon, mais une gestion adaptative des espèces.
Et quand ce ne sont pas les chasseurs, ce sont les louvetiers qui interviennent sous l'autorité du préfet.
Et tout le monde est d'accord avec cette manière de faire.
Non, mais c'est compliqué, il n'y a pas de solution miracle. Mettre des clôtures rigides, vous déplacez le problème chez le voisin qui n'en a pas. Effaroucher, électrifier, mettre des détonateurs, c'est chronophage pour l'agriculteur. Stériliser, c'est extrêmement coûteux. Laisser revenir les prédateurs, en l'occurrence le loup, c'est une solution, mais... On en a déjà parlé avec vous, Eric, dans un numéro précédent d'Une semaine en France. Qui veut du loup ?
Qui veut du loup ? Merci de ces précisions. Yael Gauz. Raphaël Matvey, je reviens vers vous. Je rappelle que vous êtes écologue, chercheur au CNRS. Est-ce que ce sera difficile, selon vous, de changer le regard des hommes sur le sanglier compte tenu du danger et des dégâts qui lui sont imputés ?
Alors, oui et non, je dirais qu'il y a des changements qui sont perceptibles aujourd'hui, notamment avec l'arrivée du sanglier en ville. Et on voit dans nos enquêtes, notamment sur Montpellier et sur Nîmes, qu'on a des regards qui restent assez différenciés. C'est-à-dire que les institutions, évidemment, considèrent qu'ils portent atteinte aux biens et aux personnes au-delà d'un certain seuil d'animaux. Et donc, ça enclenche leur élimination physique. Mais quand on discute avec la population et qu'on fait des sondages, on voit qu'on a à peu près un tiers, nous, dans nos échantillons, un tiers de personnes qui est indifférente à la présence du sanglier et qui s'interroge quelquefois sur une présence un peu incongrue en cœur de ville, par exemple.
Merci.
Et sinon, on a un tiers des personnes qui est farouchement opposée à cette présence ou qui a peur de l'animal, et un tiers d'animaux qui sont prêts, au contraire, de personnes qui sont prêts, évidemment, à vivre avec l'animal ou à vivre malgré la présence de cet animal qui peut évidemment rester dangereux s'il est acculé ou pris dans des situations de chasse en particulier.
Eh bien, merci beaucoup Raphaël Matvey, merci beaucoup d'être venu éclairer nos lanternes et bonne soirée.
Merci à vous, bonne soirée également.
Et je renvoie à votre livre Sanglier, géographie d'un animal politique, paru chez Actes Sud. Le sort des sangliers qui pourrait bien finir par nous revenir en pleine figure comme un boomerang.
Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné.
J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté. De ma mémoire qu'à ma bringue et ton amour m'ont épuisé.
Je sens des bombes et des bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À s'aimer comme des dingues,
comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu, je me déglingue, victime de ta cruauté.
Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner.
Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait endurer.
Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer.
Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashback enchaîné. Et si
si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrai. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. Apeuré de l'âme dingue, d'accord que je t'aime.
Le boomerang de Serge Gainsbourg, revisité en 2001 par Étienne Dao avec Dany. À suivre sur France Inter, le multiplex.
France Inter, le 18-20. Éric Delvaux.
L'actualité en région, l'actualité d'ici et d'ailleurs, avec l'indispensable concours des radios du réseau ICI. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ICI Armorique, ICI Picardie et ICI Béarn Bigorre, Céline Guettaz, Pierre-Antoine Lefort et Daniel Corsan. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
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 Je l'entends le bonsoir. À Rennes, Céline Guettaz, alors que les communes rurales de France luttent contre les déserts médicaux, expliquez-nous comment la ville de Plaine-Fougère parvient à garder non seulement sa maison médicale, mais aussi ses médecins et même ses cardiologues.
Oui, bien Eric, c'est le résultat d'un travail de longue haleine dans cette commune de 2000 habitants. Nous sommes ici à 70 km de Rennes, une petite dizaine du Mont-Saint-Michel, que l'on aperçoit d'ailleurs des fenêtres de la maison médicale. Une grande bâtisse de 800 mètres carrés, achetée il y a 6 ans par la commune pour 600 000 euros. Un très gros chèque, mais un pari finalement gagnant dans cette maison médicale. Il y a aujourd'hui 3 généralistes, des infirmières, des paramédicaux, mais aussi donc 4 cardiologues. Des cardiologues qui se relaient pour assurer des consultations à raison d'une journée par semaine chacun. Leur reste du temps, ils exercent à l'hôpital ou en cabinet libéral à Rennes ou Saint-Malo.
Céline, qu'est-ce qui pousse ces cardiologues à venir à Plaine-Fougère ?
Eh bien, c'est la conviction d'être utile, explique l'un d'eux. Lui-même est originaire d'une petite ville bretonne en zone rurale. Ce qui est important aussi pour lui, c'est cette possibilité de pouvoir exercer ici, en gardant son activité au CHU de Rennes pour avoir accès à des plateaux techniques de pointe. Sans ça, dit-il, il finirait par exercer de la cardiologie des années 50. Quant aux patients, bien le bénéfice est évident, pas besoin de faire des kilomètres pour aller voir un spécialiste. Avantage supplémentaire, le temps d'attente pour décrocher un rendez-vous. Ici, à Plaine-Fougère, c'est quelques semaines, dans les cabinets des mêmes cardiologues à Rennes, pour les patients non urgents, c'est au moins un an d'attente.
Et comme souvent, comme parfois, effectivement, merci. De Rennes, nous partons à Amiens, Pierre-Antoine Lefort. Depuis la fermeture du Marineland d'Antibes en janvier dernier, eh bien, c'est le zoo d'Amiens qui a accueilli les manchots.
Oui, depuis quelques semaines, ils sont une dizaine de manchots de Humboldt à prendre leur quartier dans le bassin du zoo. 5 mâles, 5 femelles, tous viennent, vous l'avez dit, du Marineland, le parc aquatique d'Antibes qui a fermé ses portes en début d'année. Un déménagement qui s'est concrétisé à la fin du mois de mars. Ils rejoignent ainsi la vingtaine de manchots déjà accueillis au zoo d'Amiens. Et alors, il a fallu créer de nouveaux nids, augmenter les portions de poissons, que tout le monde puisse manger à sa faim et surtout surveiller le traitement de l'eau, car à Marineland, l'eau du bassin était salée, alors qu'à Amiens, elle est douce. Pour les différents des autres, ils disposent de 2 petits bracelets colorés en plastique de chaque côté.
Et donc depuis 3 semaines, l'acclimatation de ces manchots semble plutôt bien se passer.
Oh oui, à en croire les équipes du zoo, ils s'adaptent parfaitement à leur nouvel enclos, même si changer d'environnement peut être stressant pour les animaux, tout comme le transport. Du personnel aux petits soins, qui ont notamment scruté la respiration des manchots, le principal signe extérieur d'anxiété chez l'espèce. D'ailleurs, c'est la question qui revient le plus souvent chez les visiteurs du zoo, très nombreux durant les vacances. Preuve que cette installation se passe bien, certains nouveaux arrivants sont en pleine période de couvage. Des bébés manchots sont donc attendus dans les prochaines semaines.
Et nous partons à présent dans les Hautes-Pyrénées. Daniel Corsan, est-ce la commune d'Argelès-Gazos qui a fait reculer Donald Trump sur les droits de douane ? Bon, certainement pas. Et pourtant, cette commune a mis tout son poids dans la balance en boycottant le Coca-Cola de toutes ses réceptions.
Oui, c'est en débarrassant les tables après un vin d'honneur pour des anciens d'Algérie le 19 mars dernier que Gaël Valin, la maire d'Argelès-Gazos, s'est demandé mais pourquoi on achète encore des bouteilles de coca, et c'est là qu'elle a eu l'idée de ce boycott, enfin boycott, on va quand même finir le stock restant, on ne va pas en racheter simplement. Et puis, il faut signaler que ce boycott concerne aussi le whisky américain qui accompagne parfois et avec modération le coca dans les vins d'honneur de la mairie d'Argelès-Gazost. C'est la Nouvelle République des Pyrénées qui a d'abord raconté cette histoire, reprise sur TF1, sur CNews, le Dauphiné Libéré ou encore Ouest France, et même la très sérieuse revue mensuelle anglaise World Today, et donc la non moins sérieuse France Inter à partir de ce soir. Gaëlle Vallin n'est pas une professionnelle de la politique, elle est commerçante, elle a été élue maire d'Argelès-Gazost aux dernières municipales. Argelès, c'est une commune de plus de 2000 habitants, c'est plutôt beaucoup chez nous, et Argelès, c'est même une des deux sous-préfectures des Hautes-Pyrénées, c'est au sud de Lourdes et au pied des montagnes. Gaëlle Vallin, c'est quand même une militante macroniste. Elle est candidate, elle était candidate suppléante du sortant Renaissance Benoît Mournet, battu après la dernière dissolution législative. Mais bon, c'est clair qu'elle ne joue pas du tout dans la même catégorie que Donald Trump. Alors, elle s'amuse avec ses administrés à faire semblant de croire que Gaëlle Vallin a fait reculer Donald Trump. Mais au fond, tout le monde se pose quand même la question de savoir si l'info est remontée jusqu'à la Maison Blanche.
Avec un peu de dérision, évidemment. Merci à tous les trois. L'actualité d'ici et d'ailleurs avec les radios du réseau. Ici, à suivre, le journal de 19h d'Hélène Philly.